Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie pour ce nouveau point de mire qui, à bien des égards, est exceptionnel puisque j'ai le grand plaisir et l'honneur de recevoir le grand chancelier de la Légion d'honneur, le général d'armée Jean-Pierre Ketch. Monsieur le grand chancelier, bonjour.
Bonjour monsieur.
Heureux de vous accueillir. Nous allons évoquer avec vous les ordres nationaux, grand symbole de la République, sur lequel, de par vos éminentes fonctions, vous veillez tout particulièrement et que vous organisez, aux côtés du grand maître de l'ordre, le président de la République.
Oui.
Avant de rentrer directement dans le vif du sujet, je voudrais dire quelques mots, si vous le permettez, mon général, mais en résumé, pour vous présenter, et en disant que vous avez été nommé pour 6 ans, en 2004, par le président de la République. Je ne pense pas me tromper.
C'est inexact parce que je n'ai pas signé de bail. Mais ce n'est pas grave. Ça fait 4 ans quand même que je suis en place.
D'accord. C'est ça. Et donc, vous avez succédé au général d'armée...
Aérienne. Jean-Philippe Douin. Tout à fait.
Vous vous inscrivez, bien entendu, dans une lignée prestigieuse qui, depuis 1803, avec M. Bernard de la Ville-sur-Illon, si j'ai bien retenu mes notes, comte de la Cépède.
C'est surtout, voilà, c'est la Cépède qui a été retenue, botaniste de renommée mondiale.
Absolument.
Civil, à noter, un civil.
Voilà. Il n'y en a plus beaucoup, je crois. Hein.
Non, il y en a eu 2.
D'accord. Alors, donc, vous veillez dans vos attributions à l'ordre et au rayonnement de la Légion d'honneur et des ordres nationaux. Donc, il en existe 3, la Légion d'honneur, le mérite national et l'ordre de la Libération. Absolument. Alors, vous êtes proche à la fois du Mâconnais et de la Lorraine, par votre naissance et par vos origines familiales, les deux. Vous avez été un brillant Saint-Cyrien, vous êtes marié et père de 2 enfants, et vous avez développé une carrière partagée entre des responsabilités opérationnelles, incluant de nombreuses campagnes outre-mer, et des fonctions de conception et de stratégie qui vous ont porté aux plus hautes responsabilités dans le conseil des gouvernements successifs et à la tête de l'état-major des armées en 1998, après avoir été, au passage, chef de cabinet du Premier ministre durant 3 ans.
Oui, Alain Juppé à l'époque.
Alain Juppé. Voilà donc pour vous présenter. Vous voulez rajouter peut-être quelque chose?
C'est bien. Moi, je trouve que c'est bien d'arriver à résumer une carrière de 41 années en quelques phrases. Et ce que vous avez dit est à peu près juste. Je ne suis pas resté 3 ans à Matignon, c'est tout.
Ah bon, d'accord.
Je suis resté moins longtemps.
Mais ce n'est pas grave.
D'accord.
Donc, je vous propose de commencer d'emblée par présenter les ordres nationaux. Et vous saurez le faire bien mieux que moi. Donc, quels sont les ordres nationaux? Quelle est leur histoire? Quel rôle et quelle valeur on peut leur attribuer, et surtout dans les temps modernes, si on peut dire, les temps d'aujourd'hui, et avec les jeunes notamment, comment souligner leur crédibilité?
Si vous voulez, je crois qu'en fait, on peut articuler tout le propos autour de la Légion d'honneur.
Pourquoi? Oui, je pense qu'on peut commencer.
Pourquoi? Parce que la Légion d'honneur, en fait, s'inscrit dans la filiation des ordres royaux, qui ont tous disparu dans la tourmente révolutionnaire. Bon. Et puis, Bonaparte s'est retrouvé sans rien pour reconnaître les mérites. Et en 1802, il a forcé le passage, avec beaucoup de difficultés, aussi bien au Conseil d'État que devant les 500, pour rétablir un ordre dont il a choisi donc l'appellation de Légion d'honneur. Il a choisi un peu plus tard la couleur rouge, c'est-à-dire celle de Saint-Louis, qui était l'ordre le plus prestigieux pour les militaires de l'Ancien Régime. Et il a donc développé la Légion d'honneur, qui a maintenant un peu plus de 2 siècles d'existence. Et c'est vrai qu'en France, comme dans le monde entier, quand on dit décoration française, on pense Légion d'honneur.
Oui, d'accord. On assimile immédiatement la Légion d'honneur.
Cette Légion d'honneur, en fait, c'est très important, n'a pas été faite pour les militaires. Elle a été faite pour tous ceux qui servent le pays en fonction de leur talent. Et c'est bien la façon de servir qui compte et pas le fait simplement de servir. Ça, c'est essentiel. Le problème avec une décoration comme celle-ci, si prestigieuse, les Français feignent souvent de dire « Oh, moi, vous savez, la Légion d'honneur », et puis, finalement, quand même, ce geste de reconnaissance de la République, c'est quand même quelque chose de très fort. Eh bien, finalement, le problème qu'on a avec ce genre de décoration, c'est ni trop peu, ni trop. Nous ne sommes pas anglo-saxons. Les anglo-saxons ont une vision très élitiste des décorations, et donc ils en distribuent très peu. Et du coup, elle reste, hélas, dans les couches supérieures de la société. Nous, c'est un écueil qu'il faut absolument que nous contournions, mais en même temps, il ne faut pas qu'on soit laxiste. Le général de Gaulle, en son temps, a vu que la Légion d'honneur, malgré la fin des guerres dites coloniales, continuait à enfler. Et il a dit, on va finir par tuer la légitimité, la crédibilité de la Légion d'honneur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti le code pour dire, stop. Il n'y aura plus dorénavant en France, je suis en 1963, là au moment où je parle, que 125 000 légionnaires maximum sur une population.
Numéro exclusif, quoi, en quelque
voilà, sorte. De 40 millions d'habitants. Nous sommes aujourd'hui 60 millions, un peu plus, et nous avons combien? 95 000 légionnaires en France. C'est-à-dire, on est même 30 000 en dessous du plafond. Et ce faisant, sachant qu'il y avait d'autres mérites à reconnaître, le général de Gaulle a créé l'Ordre national du mérite.
Ça, c'était, mon général, en quelle année?
D'accord. Donc, et là, on a en fait les deux piliers, la Légion d'honneur, qui est l'ordre numéro 1, et l'Ordre national du mérite, qui est l'ordre numéro 2. Pour des mérites plus précoces, ça peut être un marchepied, hein, ça peut être un marchepied qui amène ensuite vers la Légion d'honneur. On peut aussi avoir un cursus au sein du mérite. Bon. Et cet ensemble-là représente aujourd'hui un peu moins de 300 000 Français. Alors, quand je dis 300 000 Français, on dit « Oh là là, ça fait du monde ». J'ai dit « Non, réfléchissez un peu. 300 000 Français sur 30 millions éligibles, puisqu'on n'est pas éligible à n'importe quel âge, évidemment.
Bon,
il faut avoir servi, on va dire, au moins une dizaine d'années le pays pour espérer pouvoir rentrer dans le mérite.
Et plutôt 40 ans, à peu près.
Une vingtaine d'années pour la Légion d'honneur, sauf acte exceptionnel. Ça veut dire qu'en gros, 30 millions de Français éligibles. Et nous sommes 300 000. Ça veut dire qu'en gros, il y a un Français sur 100 qui est dans l'un des deux ordres nationaux.
Bien sûr. Donc en fait, ça
reste... n'a rien d'excessif. On ne peut pas dire qu'on la distribue à tout venant. Donc ça, c'est un point essentiel. Bon. Et la Légion d'honneur, moi j'ai pu le constater pendant les 4 années où j'ai exercé ces responsabilités, elle est vraiment considérée dans le pays. Et la conséquence de ça, c'est l'exigence. L'exigence de crédibilité. On ne doit pas la donner à n'importe qui. On ne doit pas faire d'erreur de casting, si vous me permettez ce néologisme un petit peu bizarre. Chaque fois qu'il y a un raté, et il peut y en avoir, toute action humaine a des ratés, ça a des répercussions. On dit, attendez, la Légion d'honneur, là, vous l'avez donnée à un tel, ou dites donc, il n'a pas cassé 3 pattes à un canard, etc. Et ça, c'est très mauvais pour une décoration de ce prestige. Heureusement, nous sommes organisés avec 4 filtres successifs.
Oui.
Ce qui veut dire que quand même, c'est vrai que tout le monde, on peut arriver à se tromper tout le long de la chaîne. Mais entre le préfet tout en bas, qui collecte les dossiers, les mérites, les propositions, les ministres qui arbitrent entre de multiples priorités et qui sont enfermés dans les quotas. Et ces quotas ne peuvent pas être dépassés.
Avec une nouvelle contrainte qui est celle de la parité.
La parité. On y viendra dans un moment parce que c'est un point tout à fait important.
Tout à fait.
Et donc, on peut arriver à se tromper. Mais
globalement,
on n'a pas à rougir de nos décorés. C'est même le contraire. On a toute raison d'en être fier et on a toute raison d'être exigeant vis-à-vis d'eux. Exigeant en termes de comportement et d'éthique. On a été reconnu quand même pour avoir un comportement de citoyen. Et même exigeant en termes d'action. Parce qu'on a été reconnu pour des services. On peut continuer à rendre ses services en faisant de son mieux. On peut aussi en rendre d'autres. Et je pense qu'avoir été reconnu, ça impose en fait...
Ça remonte la barre.
Et voilà.
Tout à
ça
fait.
Augmente tes devoirs tout en créant aucun droit. Ça, c'est très important. Alors, la rouge et la bleue, comme nous disons dans notre terminologie, vont bien de pair maintenant. L'Ordre national du mérite a mis du temps à s'installer dans l'opinion. Déclaration neuve, 45 ans d'existence, même aujourd'hui, c'est pas beaucoup.
Oui,
mais ça y est, elle est installée. Elle est installée et ses membres étant d'ailleurs assez jeunes, parce qu'on peut y rentrer plus tôt, elle a finalement un peu du dynamisme des néophytes, hein, le zèle des néophytes. Beaucoup de membres du mérite ont à cœur de prouver que, ils ont bien mérité leur décoration, et deux, ils vont faire quelque chose pour le pays. Et ils font des choses remarquables pour le pays, j'y viendrai dans un instant.
Et vous êtes d'ailleurs très, très attaché à donner ce rayonnement. Enfin, vous-même, vous participez aux remises de décorations, de diplômes.
Oui, tout à fait. Parce que, si vous voulez, il y a une symbolique très forte. Quand vous vous retrouvez à une remise de décoration, c'est toujours, toujours émouvant. Comme je disais il n'y a pas si longtemps, personne n'en sort indemne. Certains arrivent en disant oh, « bon, vous savez, bon, oui. Les gens d'honneur, bon, oui, je suis très content, mais enfin, bon, vous savez, bon, je vais vous faire un discours, vous savez, je n'ai pas de papier, mais je vais vous faire un discours pour vous remercier et tout. » Et au moment de sortir le discours,
on sent l'émotion.
C'est drôle, il n'a plus de voix. Il ne sait plus parler. Parce qu'il a le ruban rouge hein, sur la poitrine, il ne sait plus parler. Ouais. Hein. Et puis, tout autour, vous avez la famille. La famille présente et la famille éventuellement déjà partie. Combien de récipiendaires parlent immédiatement de leurs parents? Combien? Bon, les amis qui ont réussi à préserver dans un agenda moderne, vous savez ce que c'est, la petite plage pour être là, pour dire l'estime et l'affection à celui qui est reconnu. Eh bien, ça, c'est un instant privilégié. Oui. Et finalement, on peut peut-être, quand on le regarde de l'extérieur, avoir un petit regard critique en disant, tiens, bon, ils se font plaisir, mais pas du tout. C'est très important. Finalement, quand Napoléon disait, en réponse à ses Bonaparte d'ailleurs, disait, vous traitez la Légion d'honneur de hochet, hein, mais c'est avec les hochets qu'on mène les hommes.
Tout bon.
Eh bien, lui-même ne pensait pas que c'était un hochet, puisque le terme avait été employé par un opposant. Mais c'est avec cela que l'on mène les hommes. Et n'est-ce pas un objectif tout à fait légitime que dans le cœur de chacun, on ait envie d'être reconnu?
Absolument.
Reconnu par les pairs.
Alors, donc, voilà pour ce qui est la présentation générale, la concordance, on va dire, entre les deux ordres. Peut-être un mot sur le troisième ordre qui est donc...
Alors, il est tout à fait à part, parce que l'ordre de la Libération a été créé dans un objectif très précis, c'est vraiment de rassembler les compagnons.
C'est ça.
Bon, donc, si vous voulez...
C'est un temps d'histoire très particulier.
D'ailleurs, il n'est pas du tout dans ma gestion. Vous savez que, bien sûr, il y a un chancelier de la Libération qui est actuellement, d'ailleurs, un homme absolument remarquable, qui est le professeur Jacob, hein, qui a succédé donc au Premier ministre Mesmer. Et c'est vraiment, si vous voulez, quelque chose qui est emblématique d'une épopée extraordinaire. Hein, et donc...
C'est un peu à part.
Tout à fait. Et moi, je suis très attentif à ce qu'ils deviennent. Hélas, bon, bien sûr, ils sont en nombre de plus en plus restreint. Mais ce sont des gens hors du commun.
Alors, par contre, en chapeau commun, entre la Légion d'honneur et l'Ordre national du mérite, il y a donc une inflexion très marquée, que l'on doit au président de la République, me semble-t-il, sur la parité. Alors, vous avez tout à l'heure dit que c'était important.
Oui, c'est important.
Ça l'a toujours été, mais enfin...
Ça n'a jamais été autant qu'aujourd'hui.
Oui, ça n'a jamais été autant.
Il faut dire les choses comme elles sont. Si vous voulez, depuis pas mal de temps, à juste titre, le grand maître, qui est le président de la République, se souciait du fait que nos deux ordres nationaux reconnaissaient de façon inégalitaire dans le pays les hommes et les femmes, d'une part, mais même il allait plus loin entre ce qu'il appelait les institutionnels et le secteur privé, donc trop de fonctionnaires, pas assez d'entrepreneurs, etc., trop d'hommes, pas assez de femmes. Trop de Parisiens, pas assez de provinciaux, et puis même une sous-représentation des minorités visibles. Bon. Et il donnait des incitations fortes par des directives successives pour essayer de compenser ça. Force est de constater que ça a produit des résultats, mais assez limités. Mmh. Puisque au moment où le président Sarkozy a dit « bon, maintenant, c'est un pour un », on était quand même à 18% de femmes dans le mérite et à 13% dans la Légion d'honneur. Bon, que dans un pays où il y a 75% des femmes qui se travaillent, je ne dis pas que les mères de famille ne travaillent pas, mais du moins qui ont une responsabilité
professionnelle,
et que ceci remonte quand même assez loin, donc on peut quand même avoir un vivier qui permette d'eux. Ce qu'il faut simplement faire attention, et d'ailleurs nous y faisons attention, c'est que ça ne change en rien le niveau d'exigence. C'est un pour un, certes, mais... Il faut que les dossiers féminins pèsent le même poids que les dossiers masculins.
Sûr,
on n'est pas chevalier de la Légion d'honneur parce qu'on est une femme.
Oui.
Ce n'est pas suffisant.
C'est la parité, toute la parité.
C'est la parité dans toute son amplitude et dans toute son exigence.
Oui.
Et depuis maintenant, donc, presque un an, nous sommes sur cette base-là.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.
Mireille Delmas-Marty, professeure de droit international au Collège de France, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, se dévoile au cours de notre émission en habit vert. Elle nous livre les détails de sa carrière de chercheur, expert auprès de plusieurs ministères et de l'Union européenne. Mireille Delmas-Marty, Les forces imaginantes du droit, une émission à télécharger librement sur Canal Académie.
Donc, votre fonction éminente, qui est celle donc, de grand chancelier de l'ordre, qui comprend bien sûr le volet gestion, organisation. Alors, ça occupe combien de personnes, la Grande Chancellerie ?
La Grande Chancellerie, il y a une centaine de personnes.
Ah oui,
qui
c'est ça. Hein,
donc centaine de personnes. Parce qu'en fait, il y a bien sûr l'administration des ordres, la préparation des décisions du président concernant les promotions. On a environ 13 000 dossiers qui sont présentés chaque année.
C'est ça, bon, ouais.
Il faut les éplucher, les valider, dialoguer avec les ministères pour vérifier tous les éléments, regarder les pièces justificatives, hein, les relevés de casier judiciaire, etc., etc. On ne peut pas faire d'erreur hein, dans ce domaine-là. Bon. Ensuite, ils sont analysés par les membres du Conseil, hein, puis présentés au Conseil, puis ensuite des propositions au président. Quand il a pris les décisions, nous mettons en musique toute cette affaire-là, établissons les brevets, autorisons...
Ah, donc, il y a tout un processus.
Il y a tout un processus.
Et un suivi
qui est très important et qui doit être fait avec beaucoup de minutie. Hein. On ne peut pas avoir d'erreur. Ça, c'est la première chose. Mais plus globalement, la Grande Chancellerie, le Grand Chancelier donc, c'est le gardien de la crédibilité. Le mot clé, c'est crédibilité. Si vous voulez, on a, en la Légion d'honneur et en l'Ordre national du mérite, si vous voulez, j'appellerai moi des trésors pour reconnaître le mérite républicain. Des leviers magnifiques. Il ne faut pas détarrer ces leviers, il ne faut pas détériorer la crédibilité. Donc, l'exigence, c'est de dire, eh bien, écoutez, ce dossier, il est ce qu'il est, mais pour nous, il ne pèse pas le poids pour
suffisant.
Être reconnu suffisant. Soit vous reviendrez plus tard, quand il y aura plus de mérite accumulé, soit, écoutez, non, franchement, même plus tard, on ne voit pas très bien ce qui peut se passer. Et ça, c'est vraiment le rôle premier, qui n'est pas toujours un rôle facile. Hein. C'est un rôle d'arbitrage hein, et de garder, en fonction de la jurisprudence établie, de garder, en fait, le même niveau, au moins le même niveau de qualité que précédemment.
Parce que vous différenciez les mérites éminents et les mérites distingués.
Oui,
Est-ce que la frontière est...
Il faut reconnaître qu'on va être clair.
Ouais. La frontière est assez...
Éminent, distingué. Bon, écoutez, je peux vous rajouter 3-4 adjectifs si vous voulez. Ça ne changera pas grand-chose.
Mais c'est à peu
près... Ce qu'il y a de vrai, c'est qu'avec l'expérience, et je peux vous dire que mes fonctionnaires ont beaucoup d'expérience et de qualité, on est très vite capable de dire oui. Ce dossier pèse
suffisamment pour
prétendre accéder à la Légion d'honneur. Est-ce qu'il pèse suffisamment pour accéder à l'Ordre national du mérite?
Voilà. Tout à fait.
Ou pour une promotion, puisqu'il y a aussi, hein, on peut franchir des grades dedans. Qu'on ne franchit jamais les grades à l'ancienneté.
D'accord.
Contrairement à ce que croient certains de nos concitoyens.
Il faut avoir des nouveaux
mérites. Il faut avoir fait quelque chose de plus depuis qu'on a été nommé. C'est toujours ça. Il ne suffit pas d'être assis en disant « je suis chevalier, dans 8 ans, je serai officier ». Ah non, sûrement pas.
À l'ancienneté, non,
sûrement
ça ne marche pas.
Ça ne marche pas. Bon. Et donc, ça, c'est vraiment essentiel, la crédibilité. Et c'est seulement après qu'on a fait ça qu'on peut parler de rayonnement. Vous voyez ce que je veux dire ?
Tout à fait.
C'est illusoire de dire qu'une décoration rayonne en elle-même. Non, ouais. Ce sont les gens qui la portent qui la font rayonner.
Il faut communiquer sur quelque chose de vrai.
Les hommes.
C'est ça, tout à fait.
Il n'est de richesse que l'homme. Je ne sais plus qui a dit ça, mais il a raison. Hein. Donc, c'est l'exemplarité, hein, la justesse des choix, l'exemplarité du comportement et, comme je le disais, l'engagement dans l'action. Si vous voulez, j'ai des concitoyens qui me disent, vous savez, il y a des gens, ils ont sûrement fait des choses très bien, ils sont chevaliers des gens d'honneur, mais aujourd'hui, je vois bien, ils font rien. Je lui dis, bon, écoutez, le temps a un peu passé. Oui, mais enfin, ils pourraient quand même... S'ils sont si bien que ça, ils pourraient quand même faire quelque chose. C'est pour ça que...
Ça, c'est pas faux, comme remarque.
C'est très juste. Hein,
c'est très juste. Tout à fait.
Et souvent, elle est suivie, je veux dire, d'une deuxième remarque qui dit, bon, cela, d'accord, bon, admettons, bon, je sais pas trop, hein, bon, mais admettons. Et il rajoute tout de suite, puis je connais plein de gens qui la mériteraient largement et qui l'ont pas. Et c'est cette deuxième partie de la phrase qui m'a interpellé depuis un moment et... Le président Sarkozy vient de décider le 11 juillet dernier d'essayer d'adopter une nouvelle façon de drainer les mérites en profondeur dans le pays au profit des préfets de département. Ce qui a été baptisé l'initiative citoyenne.
Oui, tout à fait.
Et qui fait qu'on peut proposer à un autre concitoyen, pas soi-même,
hein, mais un autre concitoyen. Association, etc.
Oui. Et puis l'instituteur.
C'est ça.
L'infirmière. En disant, écoutez, tout le monde admire cette personne à qui il ne viendra jamais l'idée de demander quoi que ce soit. Eh bien, nous, on va la demander pour elle et on va présenter son dossier au préfet.
Oui, parce qu'elle n'est pas tout à fait dans les circuits, on va dire, habituels ou parisiens.
Elle n'a aucun circuit du tout.
Oui,
et puis, en plus, quand je parle des femmes, en plus, elles se préoccupent très peu des décorations, à la différence de nos concitoyens. Bon. Et là, je crois que là aussi, on va pouvoir faciliter justement la sélection et la reconnaissance de femmes. Et surtout de terrain. Moi, je crois beaucoup qu'il faut qu'on n'ancre encore plus en profondeur nos deux ordres nationaux dans le pays. Ils le sont déjà. Hein.
Oui, oui.
Aucun des deux ordres nationaux n'est une décoration pour notable. Aucun.
Tout à fait.
Il y a toutes les classes sociales. Mais vous avez, dans certains niveaux, et en profondeur dans le pays, des gens qui font un travail. Regardez les bénévoles.
Tout à fait. Tout le secteur associatif.
Que serait notre société d'aujourd'hui, dans sa compétitivité acharnée, sans bénévolat? Bon, j'ose pas y penser.
C'est une partie de l'économie maintenant sociale extrêmement, extrêmement importante.
C'est pour ça que le président vient de décider de créer une promotion du bénévolat, spécifiquement centrée sur les dossiers à dominante bénévolat, qui sera arbitrée au niveau du Premier ministre. Et là, on va essayer de mettre la première en œuvre là, dans quelques semaines. Parce que je crois qu'il est légitime que nous reconnaissions ces citoyens qui donnent de leur temps, de leur capacité pour aider les autres, pour desserrer des contraintes. Ce que l'État ne peut d'ailleurs pas faire partout. Ouais. Bon, c'est clair, il y a 8 millions de bénévoles en France et parmi les 8 millions, il y a 75% de femmes. Là encore,
alors, donc, effectivement, voilà un vivier. Là, vous avez un véritable
voilà encore un
vivier.
J'espère bien d'ailleurs que les promotions du bénévolat seront en majorité féminines.
Ah donc là, vous annoncez une première. Il y avoir une première promotion du bénévolat.
Tout à fait.
Remis par le...
Tout à fait.
Enfin, sous
les directives viennent de partir de Matignon et j'espère que ça va bien marcher. Je suis très confiant parce qu'il y a des dossiers magnifiques.
Et ça va dans le sens, en fait, d'une forme de démocratisation, on pourrait dire, des ordres nationaux.
Ce que j'aime dans cette démarche, ce sont des décorations qui vont venir d'en bas.
Oui, d'accord.
Et ça, pour moi, c'est irremplaçable.
Effectivement.
C'est irremplaçable. C'est le consensus. Bon. Et on saura trier, vous savez, la balance ne changera pas. Hein. Ce n'est pas parce que ça vient d'une proposition de citoyen qu'on va changer la balance. Hein. Non, les mérites, il faudra toujours qu'ils soient là. Hein. Mais, vous
savez, il y a plusieurs formes de mérite.
Proposé par des citoyens, reconnu donc, par l'exécutif, et remis sur le lieu de travail, entouré par ceux qui ont porté la candidature, dites donc.
Alors ça c'est effectivement...
C'est quand même quelque chose.
À la fois, c'est la crédibilité et le rayonnement.
Et voilà. Et là, on arrêtera de me dire, j'en connais plein qui pourraient l'avoir, qui ne l'ont pas. Parce que quand on va me le dire, je vais leur dire, vous n'avez pas pris votre stylo? C'est que vous n'y croyez pas. Il suffit d'écrire au préfet.
Tout à fait. Donc, parfait. Écoutez, voilà donc une grande avancée dans le sens d'une forme de démocratie supplémentaire.
Oui.
Et aussi qui rejoint la préoccupation de la parité, parce qu'effectivement, dans le bénévolat, vous avez une partie d'épouses et de dames, retraitées ou non, qui donc agissent. Alors, au général, une autre question, on a commencé à aborder d'ailleurs. Vous avez d'autres champs d'activité, si je puis dire, qui sont un peu moins traditionnels. Et qu'on connaît probablement un peu moins bien, notamment, je pense, aux maisons d'éducation de la Légion d'honneur. Donc là, vous touchez à l'éducation d'un côté.
Oui.
Et puis, par ailleurs, vous avez des actions de soutien, on va dire, à dominante caritative, peut-être, ou humanitaire.
C'est ni caritatif, ni humanitaire.
Non, c'est pas tout à fait ça.
Donc, je vais vous expliquer.
Voilà, justement. Alors, donc, c'est pour ça que je vous
parle. Alors, les maisons d'éducation, bon, je vais faire court.
Oui.
Ce sont deux maisons, un collège, un lycée, avec des classes préparatoires derrière le lycée, qui sont en banlieue parisienne, à Saint-Germain et à Saint-Denis. Il y a 1000 jeunes filles qui sont des descendantes à une, deux ou trois générations de décorées.
D'accord.
Elles sont sélectionnées par une commission, parce que j'ai beaucoup de demandes, vous en doutez, qui marie des critères de qualité scolaire et de critères sociaux. C'est-à-dire que je veux que ce soit des outils républicains, au service notamment des familles en difficulté, mais dont les filles essayent d'arriver à quelque chose, qui travaillent, qui s'accrochent. Et elles bénéficient, dans ces deux maisons, d'un cadre exceptionnel, d'une pédagogie de très très haut niveau. Les professeurs sont tous volontaires pour venir, et je peux vous dire qu'ils sont d'une qualité hors du commun. D'ailleurs, on va regarder les résultats. Pour faire court, les résultats au bac, je ne parle pas en taux de succès, c'est 100%, en taux de mention, sont proches, très proches, des grands lycées parisiens. Mais à la différence des lycées parisiens, moi, je ne prends pas que des excellents élèves.
Bien sûr.
D'autre part, un élève qui ne marche pas très bien, moi, je le garde. Parce que les grands lycées parisiens, certains d'entre eux en tout cas, se débarrassent des élèves dont ils ne sont pas sûrs qu'il obtiendra une mention au bac.
Tout à fait. On va dire que le mérite n'est quand même pas le même. Parce que, pour reprendre votre expression.
Tout à fait. La deuxième chose aussi, ça a été ouvert aux descendantes de médaillés militaires. J'y tenais beaucoup. Et notamment, ça permet de, petitement, mais de compenser un peu la dette qu'on doit aux descendantes de harkis. Et j'ai 25 jeunes filles qui sont des petites filles de harkis et qui sont d'excellentes élèves.
Là,
donc je suis très fier des maisons. ça tourne magnifiquement. Je termine mes activités professionnelles dans la peau d'un recteur, mais un recteur heureux, deux établissements qui marchent tout seuls. C'est formidable.
Et alors, ces jeunes filles, elles vont plutôt, c'est plutôt des littéraires, des
non,
auteurs.
J'ai les deux.
C'est les deux.
Elles partent toutes en études supérieures après, bien ça sûr. Vous en doutez. Hein. Elles réussissent toutes magnifiquement. Et le grand bonheur du grand chancelier, c'est, au hasard de telle ou telle occasion, ouais. c'est de voir tout d'un coup une jeune femme arriver vers lui avec un grand sourire. Alors il se dit, tiens, je plais encore, mais pas du tout. Elle vient simplement dire, je suis une ancienne élève des maisons d'éducation. Et elles ont gardé, globalement, un souvenir extraordinaire de ça. Et des amitiés aussi. Éducation, des repères, des valeurs. On est très strict sur le comportement, sur le respect, sur l'absence de tricherie, ça. Hélas, qui est un des mots de notre éducation. Donc, les maisons d'éducation, c'est aussi un outil de rayonnement, d'ailleurs.
Bien sûr.
C'est ce qu'on peut faire en appliquant les valeurs des ordres nationaux.
Enfin, je me souviens avoir vu un reportage à la télévision il y a quelque temps qui avait beaucoup marqué. Je sais que dans mon entourage, les gens en ont parlé, en étant surpris.
Ces jeunes filles sont en uniforme, elles y tiennent beaucoup. Et l'une d'elles, je me souviens, qui venait de rentrer à Saint-Denis, c'est la première fois qu'elle mettait les pieds donc, à la Légion d'honneur. Je lui disais, alors, cet uniforme, elles ont des ceintures avec des couleurs par classe. Elle me disait, vous savez, le matin, quand je mets ma ceinture, je deviens une demoiselle de la Légion d'honneur. Et même, je disais, ça, en toute spontanéité, ça change la mentalité. Et puis, alors, ça égalise les conditions sociales. Hein.
Absolument.
Là, il n'y a plus de question de marque, etc.
La fille de Harki et
de grand... On fait le ramadan à Saint-Denis. Pourquoi
bien.
Pas
Très bien. Donc, un recteur heureux, un chancelier heureux, un recteur heureux. Alors, vos autres actions auxquelles, et certaines, je sais, vous y êtes extrêmement attachés.
Alors, j'aurais juste dire un petit mot sur le musée.
Ah oui, alors le musée.
Qui est aussi un instrument de rayonnement.
Tout à fait.
Il a été fermé longtemps parce qu'il fallait complètement le rénover. Hein. C'est un musée qui avait quand même 83 ans.
Hein. Alors, l'adresse
c'est à la Grande Chancellerie. C'est en face du musée d'Orsay. Écoutez, je ne peux pas dire mieux.
Voilà, c'est parfait.
Quand vous sortez du musée d'Orsay, si vous avez, vous prenez en face, vous rentrez, c'est gratuit. C'est gratuit. Et j'ai 40 000 visiteurs par an quand même. Hein.
Ah oui, c'est bien.
Et je peux vous dire que c'est un magnifique musée. Clair, moderne, avec des écrans interactifs. On est en train de monter des programmes pédagogiques pour les classes de ZEP, et ça marche très bien. Et ça marche très bien. Parce que je crois qu'on a là un magnifique instrument, si vous voulez, pour expliquer que les hommes et les femmes qui ont fait la France, eh bien, on leur doit beaucoup. Et que, pour beaucoup d'entre eux, ces hommes et ces femmes ont été reconnus dans les ordres nationaux. Donc, on a des portraits, on a 300 portraits qui évoquent certaines de ces personnes.
Et
pas seulement des soldats, la résistance et tout, mais des savants. On a des interviews de Charpak, de Simone Veil, des trucs formidables. Et des enseignants s'intéressent de plus en plus à ce musée. Et moi, je les encourage à venir aussi sur le site, puisque tout est accessible par Internet. Les enseignants peuvent faire une visite virtuelle pour se préparer avec la classe. Hein. On peut visiter tout le musée
en
virtuel.
Et là, pour les enseignants, ça coûte quelque chose.
C'est gratuit.
C'est gratuit. Très important. Hein.
Je pense que c'est, à part le transport, c'est leur problème. Mais l'accès, la pédagogie, tout ça, c'est gratuit.
Ouais.
Et je pense que c'est un excellent outil. On a décuplé notre audience depuis qu'on a réouvert et ça marche très bien. Je dirais que j'attache encore plus d'importance à ce qui a été initié voici maintenant 2 ans et demi, c'est-à-dire engager les décorés au profit de notre pays pour remédier à un fait de société qui est dramatique, qui est la panne de l'ascenseur social. Les constats sont quand même assez terribles sur la dégradation des taux d'accès des jeunes des classes populaires aux études supérieures. Nous sommes en train de perdre notre richesse humaine. Nous sommes en train de déliter, de détricoter le tissu social de ce pays. Et Dieu sait que ça peut être de l'explosif en barre. Bon. On a des jeunes qui ont plein de potentiel et qui sont plombés par leur milieu socio-culturel, par...
Des problèmes
financiers. Vous savez, quand vous lisez le rapport Wauquiez sur à quel niveau s'arrêtent les bourses en France, une famille qui a 1400 euros par mois et 2 enfants n'a pas de bourse. Comment elle paie les études?
Ça passe pas.
C'est pas possible. Donc on dit aux jeunes, non, t'es pas idiot, mais écoute, tu vas aller travailler, parce qu'on peut pas. Bon. Eh bien, ça, je crois qu'il faut qu'on aide. Alors, j'ai fait appel aux décorés. Et quand on fait appel aux décorés, on n'est jamais déçu. Bon, on l'explique bien. Aujourd'hui, j'ai plus de 5000 décorés qui se sont engagés dans cette affaire. J'ai 25 boîtes françaises. Pourquoi françaises? Parce que j'estime que c'est d'abord un problème franco-français. Donc, je me suis d'abord tourné vers les boîtes.
Ouais.
Et Dieu sait que j'ai trouvé des patrons ouverts et généreux. Et on a aujourd'hui 330 filleuls qui ont été pris en charge, chacun par un décoré, coachés de la seconde au premier emploi. Jusqu'au premier emploi.
Donc pourquoi... c'est l'accompagnement à l'éducation.
Voilà, tout à fait. Alors, chacun reste à sa place. Hein. Ouais. C'est-à-dire, la famille garde son rôle, l'équipe pédagogique
du coaching.
Lycée. C'est du coaching.
Tout à fait.
Tout à fait. Hein. Et puis, quand il y a des problèmes, eh bien, on essaie de desserrer les contraintes. Ils n'ont pas de relation. Ces jeunes n'ont aucun tissu de relation. Comment ils trouvent des stages? Comment un jeune... Ils ne trouvent pas. Nous, maintenant, nous sommes leur tissu de relation. Nous sommes leur caution quand il faut louer une chambre de bonne. Nous sommes leur caution quand il faut emprunter pour des études qui ne sont pas de grande école. Et là, autrement, les banques... Moi, j'attends de voir un peu ce que les banques vont faire sur l'incitation très bonne de Valérie Pécresse, hein, qui dit on va faire des prêts étudiants sans caution, etc. Mais on laisse une liberté d'appréciation aux banques. J'espère qu'elles vont être citoyennes, dans le sens fort du terme. Moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que grâce au Crédit Agricole, il faut dire les choses comme elles sont, eh bien...
Merci pour lui.
Eh oui, ben, c'est la vérité. Hein. Tous mes élèves, tous mes étudiants, même s'ils ne sont pas sur circuit grande école, ont un prêt grande école, un taux que je ne citerai pas, parce que là, c'est peut-être un peu plus confidentiel, il est très bas.
Oui, oui, bien sûr.
Et nous cautionnons. Nous cautionnons ce prêt.
Tout à fait.
On va vers 600 jeunes. On va vers 600 jeunes en France. Et je pense qu'à la fin de cette année, nous serons une fondation reconnue d'utilité publique. Hein, le dossier est en Conseil d'État. J'ai en plus ajouté un petit volet pour l'Afrique. Parce qu'on ne vit jamais impunément en Afrique. Hein, on y laisse toujours un peu de son cœur.
Vous avez passé une bonne partie de votre carrière.
Et puis, je crois que l'éducation des jeunes filles en Afrique, c'est la clé de l'avenir de ce continent. Donc, en parallèle, nous avons ouvert aussi des parrainages pour permettre à des jeunes filles africaines de venir faire leur scolarité en France et on garantit leur retour au pays dans un poste bien rémunéré. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui démarre, qui est du coût humain. Hein. C'est...
Donc en fait, vous êtes en position de facilitateur, de coaching et d'intermédiaire entre, on
tout
va dire,
fait.
Ceux qui ont, entre guillemets, le pouvoir, ou le pouvoir financier,
oui,
ou le pouvoir
tout à fait.
De réseau. Et vous servez de vos décorés, vous dites, mais c'est
tout
parce
à fait.
Que des...
Mais les décorés, vous savez, ça représente un réseau extraordinaire,
ah ben sûr,
si on
sûr,
peut l'actionner.
Bien sûr, bien sûr.
Extraordinaire. Le, décor, le parrain, moi je l'appelle le passeur social.
D'accord.
C'est celui qui tend la main et qui aide un jeune à monter. Et nous, on aide le parrain avec notre réseau.
Ben, je pense que cette initiative méritera qu'on en reparle sur cette antenne.
Mais bien volontiers.
Monsieur le Grand Chancelier, nous avons passé un bon moment et surtout, on a senti... la force de la conviction, la passion à la fois d'un patron, vous êtes aussi un patron, vous dirigez la grande chancellerie, d'un recteur.
C'est pas le plus dur, le recteur, vous l'avez compris.
D'un conservateur aussi de musée.
J'ai fait un peu tous les métiers, ça m'a beaucoup amusé jusqu'à
donc
présent.
Mais surtout, ce qui était très agréable, c'est de voir cette passion et qu'en fait, même si nous traversons des périodes où beaucoup ont perdu... le sens des valeurs, où les difficultés sociales sont là, frappent à la porte, eh bien, il y a manière de se battre contre ce cours des choses.
Absolument.
Et à commencer par les réseaux des légionnaires, si je puis dire, ou des décorés, selon le terme que vous préférez. En tout cas,
légionnaires et compagnons. Le mérite a pris le terme de compagnon, qui est un beau terme aussi.
Hein.
Mais vous parlez de valeurs, vous avez raison. Mais vous savez que c'est ce qui est très réconfortant. C'est au contact de nos jeunes filles, on retrouve tout de suite les valeurs.
Tout
de suite. Il suffit de les prendre par la main, de leur faire confiance, de leur dire le chemin, c'est par là. Et on se rend compte qu'il y a une sacrée ressource dans notre jeunesse. Hein. Donc, essayons de la faire fructifier.
En tout cas, bravo. Merci pour ce grand moment d'amitié, de convivialité.
C'était un grand plaisir pour moi.
Merci.
C'est
écoutez,
moi qui vous remercie de m'avoir invité ici. Thank you.